Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, de plus en plus de voix s'élèvent en Europe pour la création d'un tribunal spécial pour l'Ukraine. La Commission européenne réfléchit à la mise en place d'un parquet international afin de rassembler des preuves avant l'éventuelle création d'un tribunal spécial. Fin novembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé de travailler à la création d'un tribunal spécial soutenu par les Nations Unies. Et désormais, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, appelle elle aussi à un nouveau format de tribunal pour traduire les dirigeants russes en justice. Mais c'est la Lituanie qui a véritablement été aux avant-postes dans ce dossier. Vilnius a déjà lancé sa propre enquête pour collecter les preuves de l'agression russe en Ukraine. C'est un reportage de Marielle Vituro.
Près d'un an après le début de la guerre, les enquêteurs lituaniens ont déjà entendu plus de 300 personnes et ont accordé le statut de victime à 70. 40 procureurs aidés de la police travaillent dans toute la Lituanie pour collecter les témoignages de crimes de guerre. La Lituanie a pris l'initiative de lancer immédiatement une enquête pour une raison bien particulière, explique Nida Grunskene, la procureure générale de Lituanie.
Nous devons aider à rassembler les preuves car la Lituanie est le seul pays qui a jugé les crimes de guerre et crimes contre l'humanité de l'ancienne Union soviétique. Dès le 13 janvier 1991, après l'attaque des soviétiques contre la tour de télévision qui a fait 14 morts, les procureurs ont commencé à recueillir les preuves des crimes.
Aujourd'hui, pour collecter des preuves de l'agression russe contre l'Ukraine, plusieurs pays travaillent ensemble au sein du groupe Eurojust, l'agence pour la coopération judiciaire en matière pénale. Un travail en commun nécessaire qui permet d'éviter aux Ukrainiens de témoigner deux fois des crimes auxquels ils ont assisté et donc d'éviter un nouveau traumatisme. En Lituanie, c'est quand ils font leur demande de permis de séjour que les Ukrainiens sont incités à témoigner. Robertas, fonctionnaire du département des migrations, rencontré dans un centre d'accueil, explique cette procédure.
On leur demande à ce moment-là s'ils ont des informations sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. S'ils en ont, on leur dit de s'adresser à la police. Il y en a qui en ont et parfois ils se mettent tout de suite à raconter leur histoire. Mais ce n'est pas à nous de les écouter, ce n'est pas de notre ressort. On leur dit où s'adresser et on voit que cela compte beaucoup pour certains d'entre eux.
Impossible de donner des détails précis sur ces témoignages, mais Nida Grunskene, la procureure générale, estime que chaque fait mérite d'être documenté pour l'enquête.
Nous avons les dépositions de personnes qui ont été témoins de la destruction d'écoles ou d'autres bâtiments. Nous avons les témoignages de gens qui ont assisté aux violences faites sur des personnes. Nous avons des vidéos de destruction de bâtiments. Toutes les informations sont importantes.
L'enquête judiciaire a donc été lancée en Lituanie quelques jours après le début de la guerre. Elle complète parfaitement les autres instances. Gabi Adaugirdé, vice-ministre de la Justice.
Les ressources de la CPI, la Cour pénale internationale, pour enquêter sont limitées, tout comme le personnel. Pour assurer la condamnation, il est nécessaire que les juridictions nationales ouvrent aussi des enquêtes. Le lien juridique avec les agresseurs est établi par la présence de victimes sur le territoire et il sera ainsi possible de les juger.
Et Vilnius se démène aussi pour appuyer les structures internationales. La CPI a reçu 100 000 euros comme aide pour enquêter. Le 21 mai, la ministre de la Justice a incité ses homologues de l'Union européenne à discuter de la création d'un tribunal spécial. Le ralliement tout récent de l'Allemagne à cette idée a été salué par les autorités lituaniennes, qui avaient organisé une conférence sur le sujet au printemps dernier à Vilnius. Le juriste anglais Philip Sands, une référence sur ces questions, était présent.
Pour moi, le plus important, c'est la création d'une institution internationale qui peut au minimum enquêter au niveau préliminaire. Même si M. Poutine n'arrive jamais à la Cour spéciale, déjà ça changera beaucoup. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé en ex-Yougoslavie et au Rwanda aussi. L'existence d'un tribunal, certaines décisions qui sont prises contre certains individus peuvent avoir déjà un très grand effet.
Parce qu'il y aurait une eau pauvre sur eux, en fait.
Voilà, c'est exactement ça.
Mais pour l'instant, l'heure est toujours et encore à la collecte des preuves, car la guerre dure. La pertinence des informations collectées est importante, mais aussi leur quantité.
Plusieurs pays européens affichent leur soutien aux Iraniennes et aux Iraniens en quête de liberté, alors que l'Iran continue de réprimer durement sa population. En Italie, une pétition lancée par la presse a déjà rassemblé des centaines de milliers de signatures. Une mobilisation pour une jeune femme, en particulier condamnée à mort par Téhéran après une manifestation, et dont le sort émeut les Italiens qui tentent de faire réagir l'ambassade d'Iran à Rome. Les précisions de Blandine Hugonnet.
Il faut sauver la vie de Fahima Karimi, c'est cet appel qu'a lancé le quotidien italien La Stampa fin décembre, un mois après l'arrestation cet automne de cette Iranienne dans la province de Téhéran. Cette entraîneuse de volley participait alors à des manifestations contre le pouvoir. Accusée d'avoir donné des coups de pied à un des soldats chargés de la répression, Fahima Karimi est condamnée à mort pour corruption sur terre. Emprisonnée à Evin, dans le nord de la capitale, elle partage sa cellule avec une Italienne, Alessia Piperno. C'est cette trentenaire, interpellée pendant une mobilisation elle aussi, qui fera connaître sa codétenue. À son retour à Rome en novembre, après 40 jours dans les geôles iraniennes, la blogueuse raconte comment cette mère de famille hurlait le mot « liberté » et les prénoms de ses trois enfants, se jetait par terre et étouffait ses cris. Avec ce récit glaçant, l'aventurière italienne émeut les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la pétition lancée par La Stampa pour faire libérer Fahima Karimi rassemble ainsi plus de 310 000 soutiens, un des records italiens de mobilisation en ligne, précise le grand titre de la presse. Alors qu'en ce début d'année, Téhéran met à exécution les mises à mort, les 8 boîtes de signatures ainsi que des lettres de politiques et de sportifs prêts à parrainer l'athlète iranienne ont été remises à l'ambassade d'Iran à Rome. Le président italien Sergio Mattarella a lui aussi condamné la peine capitale, mais ce coup de pression n'a pas l'effet escompté. À peine arrivé en janvier, le tout nouvel émissaire de la République islamique a nié toute violation des procédures et des droits des femmes dans son pays et accusé les Italiens d'ingérence, semblant fermer le dialogue et sceller le funeste sort de Fahima Karimi, malgré le soutien massif de l'Italie.
Pour alerter sur le sort des jeunes chercheurs en Europe, un collectif scientifique, Initiative for Science in Europe, a remis cette semaine un manifeste à la commissaire européenne chargée de l'innovation et de la recherche. L'enjeu, c'est la grande précarité chez ces chercheurs. Bonjour Julien Méchaussy.
Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin, Julien, et nous venons chez vous car en Allemagne, la situation des chercheurs est particulièrement dramatique.
Et cela est dû avant tout à une loi qui porte un nom dont seule la langue allemande a le secret, Wissenschaftszeitvertragsgesetz, soit la loi sur la durée des contrats au sein des universités. Votée en 2007, cette législation a imposé ici des contrats courts aux enseignants et chercheurs lors des années durant lesquelles ils rédigent leur doctorat et après l'obtention de leur diplôme. L'objectif affiché était alors d'éviter des carrières trop longues qui auraient empêché les nouvelles générations de faire de la recherche.
Un système qui est de plus en plus dénoncé par les universitaires allemands.
Oui, et on peut même parler d'un mouvement de grande ampleur. Et tout est parti d'une vidéo postée par le ministère de la Recherche.
Das ist Hannah. Sie ist Biologin. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit.
Sous forme de dessin animé, on peut y voir Hannah, une jeune biologiste qui enchaîne les contrats courts, ce qui la pousserait à rester performante. Le ministère fait aussi ici la promotion d'un autre aspect de cette législation, la limitation sur 12 années de ces contrats courts, ce qui permettrait de laisser la place aux plus jeunes sous couvert d'égalité des chances. Face à cette communication qu'il juge absurde, trois jeunes universitaires, Amrei Bar, Christine Eichhorn et Sebastian Kubon, décident alors de lancer sur Twitter le hashtag « Ich bin Hannah », Je suis Hannah, afin de recueillir des témoignages sur la précarité des universitaires allemands. Et à ce jour, ce sont plus de 100 000 tweets qui ont été publiés sous ce hashtag, des témoignages rassemblés dans un livre paru récemment. Amrei Bar en est l'une des autrices.
Où est la justice ou encore l'égalité des chances quand votre seule perspective est de travailler 12 années dans la plus grande précarité pour se retrouver au final sans emploi? De devoir tout recommencer à zéro à 35 ou 40 ans? Ce n'est ni juste ni une chance. C'est juste scandaleux. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une sécurité sur le long terme afin que les chercheurs, les universitaires puissent donner le meilleur d'eux-mêmes sans être noyés par cette précarité.
Julien, la colère exprimée sur les réseaux sociaux a trouvé son chemin jusque dans le contrat de coalition du gouvernement et au Bundestag.
Amrei Bar et ses deux co-auteurs ont en effet réussi à ce que les responsables politiques s'emparent de ce sujet. Le Parlement travaille actuellement à une nouvelle loi attendue au printemps, laquelle devrait revenir sur cette culture de la précarité dans la recherche. Car comme l'affirme Amrei Bar, le système ne fonctionne plus.
Les responsables d'universités dénoncent aussi ce système. Beaucoup souhaiteraient conserver ces chercheuses et chercheurs hautement qualifiés. Mais s'ils n'en ont pas la capacité, à cause de la limitation des contrats à durée déterminée dans le temps ou l'absence de perspectives sur le long terme. Le système ne fonctionne plus. Il est urgent de se demander si nous voulons continuer comme ça. Nous assistons à la perte systématique d'expertise, de savoir. Je ne pense pas que ce soit la plus fantastique des idées.
Et preuve que les choses bougent, le ministère de la Recherche allemand a supprimé de son site la vidéo de la jeune biologiste Hanna, qui vantait donc les avantages de cette précarité systématisée.
Merci Julien, à bientôt.
Motore, pronto col check. Check.
Quanta prima.
Externalisation, c'est le maître mot dans le monde des musées et des arts italiens depuis quelques années. Et cette externalisation rime avec précarisation. Une association, Mi Riconosci, appelle à se mobiliser face au phénomène. C'est un reportage d'Olivier Bonnel.
C'est devant le Colisée, l'un des monuments les plus visités d'Italie, que le collectif Mi Riconosci, me reconnais-tu en italien, a donné rendez-vous ce samedi. Créée en 2015, cette association de défense des travailleurs du secteur culturel a choisi ce nom pour dénoncer le manque de visibilité de leurs conditions de travail. Mi Riconosci célèbre un anniversaire, celui des 30 ans de la loi Ronchey, du nom de l'ancien ministre de la Culture. Un anniversaire au goût amer pour ces salariés de la culture, tant cette loi a bouleversé l'univers des biens culturels en Italie. Derrière le mégaphone, Valentina, jeune archéologue, qui résume l'esprit de cette loi.
Elle a permis à des acteurs privés dans les lieux culturels de rentrer dans la gestion de ce qu'on appelle les services ajoutés, tous ces services que les musées, les sites et parcs archéologiques proposent aux visiteurs et qui permettent de faire du profit à partir de ces espaces.
Billetterie, services de sécurité, boutiques dans les musées, cafétérias, visites guidées, autant de services que l'on trouve dans les musées et qui sont gérés quasi exclusivement par des entreprises privées.
Les acteurs privés entrent dans le circuit des musées d'État grâce à des appels d'offres et des concours, souvent au rabais. Et cela a des répercussions sur le recrutement du personnel qui souvent est obligé d'accepter des contrats très mal payés.
Au fil des années, le secteur de la culture en Italie n'a cessé de se précariser. Mi Riconosci a lancé une enquête nationale l'an dernier sur les conditions de travail dans le secteur culturel. Plus de 89% des personnes interrogées trouvent par exemple difficile leur travail dans le secteur touristique avec des salaires particulièrement bas. 40% des sondés affirment par ailleurs avoir un autre travail pour s'en sortir économiquement. Stefano a navigué de petit boulot comme gardien de musée. Il est pourtant diplômé en histoire de l'art de l'université Sapienza de Rome, l'une des plus prestigieuses d'Italie. Il revient sur une spirale infernale.
J'ai travaillé dans plusieurs musées pendant près d'un an, chaque jour un nouveau musée, donc pas facile d'organiser ces déplacements. Les journées commençaient parfois avant l'ouverture du musée et elles étaient rythmées par des gardes soit de 5 heures, soit de 10 heures, avec deux petites pauses café et deux pauses d'une demi-heure pour le déjeuner et plus tard en soirée. Aucune compétence spécifique ne nous était demandée pour ce poste de gardien. C'était des journées vides qui ont provoqué une grande fatigue psychologique.
De l'avis de nombreux travailleurs du monde de la culture, l'Italie fait trop peu pour mettre en valeur ses richesses patrimoniales et assurer des conditions de travail qui soient dignes. Un paradoxe dans un pays aussi riche, avec ses 55 sites classés au patrimoine de l'UNESCO, record mondial, ses merveilles archéologiques, architecturales ou naturelles. Pour Claudio Meloni, coordinateur national de la branche culture de la CGIL, le premier syndicat italien, le véritable problème est avant tout celui de l'investissement.
L'Italie est au 22e rang en Europe si l'on prend ce qu'elle dépense pour la culture par rapport à son PIB. À titre de comparaison, la France dépense le double. Il y a donc un problème de ressources. Nous pensons qu'elle devrait être au moins dans la moyenne européenne.
Pour le syndicaliste, il faudrait une politique volontariste de la part du gouvernement, ce qui est loin d'être acquis. Gennaro San Giuliano, le nouveau ministre de la Culture, ne s'est pas encore exprimé sur les contrats de milliers de travailleurs, mais évoque l'augmentation des prix des billets, comme à la Galerie des Offices de Florence, une proposition qui a provoqué la colère des syndicats ou des associations comme Miriconosci, qui déplore une vision uniquement mercantile et touristique de la culture.
Le réseau social préféré des ados, TikTok, dans la tourmente. La semaine dernière, Shou Chu, le patron de l'application chinoise, s'est rendu à Bruxelles, reçu par plusieurs commissaires européens. Une visite très attendue pour parler des obligations européennes auxquelles devra se plier la plateforme. C'est votre Europe du Net, Clémence Pénard. Bonjour.
Bonjour Juliette.
TikTok pourrait vivre une année mouvementée sur le vieux continent.
Oui, le viseur des autorités européennes se tourne enfin vers TikTok. C'est vraiment l'application incontournable chez les jeunes, une appli de partage de vidéos devenue célèbre dans le monde entier pendant le confinement. En Europe, elle compte 250 millions d'utilisateurs. C'est donc une personne sur trois. Pourtant, depuis quelques mois, le réseau social croule sous les critiques. TikTok inquiète l'Occident et plus particulièrement les États-Unis. Et il y a même de grosses discussions sur son interdiction totale aux US.
Clémence, on peut dire que chez nous, en Europe, on ne peut pas parler d'opposition frontale des dirigeants à l'égard de TikTok.
Oui, mais cette ligne de conduite pourrait évoluer. L'Union européenne se réveille. Même Emmanuel Macron a fustigé le réseau social en le qualifiant de faussement innocent, créant une véritable addiction chez les jeunes et hébergeant également de la désinformation russe. Face à tout ça, TikTok évidemment veut calmer le jeu. L'entreprise doit regagner la confiance des commissaires européens.
Clémence, le réseau chinois devra de toute façon bientôt, à l'instar des géants de la tech américaine, respecter les nouvelles lois européennes.
Effectivement, des lois que doit désormais connaître par cœur Shou Chu. Je parle bien sûr des fameux DMA et DSA qui entrent en vigueur cette année. DMA pour Digital Markets Act et DSA, Digital Services Act. Jennifer Chrétien, consultante en politique du numérique, nous traduit tout ça.
Le Digital Markets Act tire les leçons de plus de 15 ans de procès portant sur des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine de la tech. Plutôt que d'attendre qu'il y ait de nouveaux procès, il interdit d'office les pratiques les plus délétères. Par exemple, lorsque vous chercherez vol Paris-New York, Google ne pourra plus mettre son service Google Flights en avant pour se favoriser au détriment des autres services de comparaison de vol. Concernant le DSA, le Digital Services Act, il s'agit de responsabiliser ces acteurs sur les contenus et produits qui sont relayés sur leur plateforme, comme le harcèlement, les discours haineux, la désinformation, ou aussi à lutter contre la diffusion de produits illégaux sur les plateformes en ligne, par exemple sur les plateformes de e-commerce.
Alors évidemment, pour que ça marche, il faut aussi des sanctions financières. Si une plateforme ne respecte pas le DMA, elle pourra ainsi se voir infliger des amendes allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial total. Dans le cadre du DSA, les sanctions, elles, pourront aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Et en cas de violation grave ou de récidive, comme on dit, l'entreprise pourrait même être banni de l'Union européenne. Fini la rigolade, on montre les muscles. C'est vrai que le numérique s'est un peu développé comme dans un western sans foi ni loi. Mais maintenant, en Europe en tout cas, il y a un nouveau shérif en ville.
L'Europe du Net, la chronique de Clémence Pénard dans Accent d'Europe. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez vous abonner. À bientôt.